Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux évidemment de vous retrouver. On débriefe largement cette Irlande-France hier, toujours avec Simon Dutin, Philippe Saint-André, Pascal Duprat, Cédric Emans. Cédric Emans pour sa première. Avec nous, tout se passe bien?
Ça va, je suis déçu parce qu'il y a un sujet qui a sauté dans le zapping et j'ai fait un air zapping. Voilà.
Oui, mais c'est toujours ça. Quand on débute, je trouve que faire un air zapping, ça t'honore. Tu vois, ouais, ça te grandit.
Ouais, ouais, mais j'aime bien avoir une opinion.
Ne t'inquiète pas.
T'en envoyé deux, je m'en fous quand même pour ta première, c'est beau.
Ne t'inquiète pas, il y a trois sujets qui vont arriver, beaucoup de sujets, et tu auras le loisir évidemment de discuter avec nous. Dans quelques instants, dans deux jours, c'est le grand soir Liverpool-Paris-Saint-Germain. Êtes-vous aussi optimiste que les Parisiens? C'est le bras de fer des GG. 10h30, la grave blessure d'Antoine Dupont, évidemment. Alors, la faute à pas de chance ou aux Irlandais? Les Bleus ont-ils raison d'être en colère? Vous les entendrez dans cette émission et puis on vous donnera les dernières nouvelles concernant le capitaine des Bleus. Et puis 10h45, les GG contre-attaque, mes grandes gueules. Vous prenez les commandes de cette émission. Vous avez quelques secondes pour nous vendre votre débat, pour donner envie aux auditeurs de voter pour vous. C'est pas sur le compte X des grandes gueules du sport. Je commence avec Philippe. Un petit tour dans les rangs. Philippe, tu veux nous vendre quoi aujourd'hui?
Ben c'est simple, hein. Faut-il se méfier de l'Écosse pour la finale du Six Nations?
Quand même pas se méfier des Écossais, quand même.
Eh ben, on va voir.
Ouais. T'as peur de l'Écosse, toi?
Ben, vous...
Votez, je donnerai mon avis.
Bravo, ça c'est du teasing. Pascal, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
J'adore le rugby, mais j'aimerais qu'on revienne un peu au football. Donc j'aimerais parler de Lamine Yamal. En plus, je l'avais mal prononcé la semaine dernière. Donc, en fait, j'ai lu que les journalistes, certains journalistes en Espagne, s'est penché sur le fait que ça fait 127 jours qu'il n'a pas marqué de but en Liga. Donc, je pose cette question. Est-ce que le football rend fou? Vraiment fou, y compris les journalistes espagnols.
Oui, oh, surtout les journalistes espagnols. Je suis bien d'accord avec toi,
surtout,
mon cher
Pascal. J'ai bien
Pascal.
Fait distinguo.
Bien sûr, merci. Simon Dutin, tu proposes quoi aujourd'hui?
Oh, c'est le retour du retour du retour du débat Djoko. Tu sais, il est sorti au premier tour à Indian Wells. Est-ce que la fin de Novak Djokovic, de la domination du Serbe, tout ça, le Joker est-il terminé? Blablabla.
Ok, il veut nous parler de Novak Djokovic, de tennis. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore durant cette émission. Cédric Emans, tu nous proposes quoi pour ta première contre-attaque?
Plus vite, plus fort, toujours plus haut. Tadej Pogacar, il chute, il panique pas, il remonte sur son vélo, il rattrape Pidcock et il gagne. Va-t-il tout rafler?
Votez pour moi. Tout rafler cette saison. Votez pour moi. Vous avez entendu cette grosse voix. Si vous ne votez pas pour
Philippe
lui,
Saint-André l'a fait hier pendant l'émission et ça a marché. Voilà. Donc on m'a dit soit simple, votez pour moi.
Je savais pas que t'étais un spécialiste de cyclisme.
Bah si, j'adore le vélo, je fais du vélo. Mais le physique est trompeur, je suis d'accord. Mais j'adore le vélo, j'en fais beaucoup.
10h45, les GG contre-attaque, oui.
Bah, c'est ça qui va gagner. Pogacar gagne toujours. Donc,
ok, vous pouvez aller voter en tout cas. Et puis évidemment, le grand gagnant viendra poser sa problématique. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Jean Dutour qui a dit un jour, dans les situations désespérées, la seule sagesse est l'optimisme aveugle.
RMC, le bras de fer GG.
Dembélé tout seul, Dembélé tout seul, la frappe de Dembélé. Oh, il a voulu la mettre sous la jambe gauche avec Alisson qui est en difficulté. Barcola qui la remet, Barcola qui va frapper, Barcola, il n'y a plus de gardien, Barcola, oh, du droit, non, finalement du gauche, non. Il l'avait au-dessus. La course d'élan de Kvaratskhelia, il était bien placé, ce diable d'Alisson Becker. Kvaratskhelia qui va s'ouvrir l'angle de frappe du droit au ras du sol, il la relâche pas, Alisson Becker.
Darwin Núñez, entrée sur face, il va écarter à droite, vers McAllister, je crois, la frappe et le but. Oh, le but, oh, le but de Liverpool, oh, c'est incroyable, c'est Hervé Liotiano, t'avais tout vu, il s'est mis à droite, la frappe du gauche, c'est invraisemblable, Paris est mené à domicile après avoir fait un match exceptionnel.
C'est fini, c'est terminé, la première manche est remportée par Liverpool qui a fait sauter la banque au Parc des Princes avec ce but d'Eliott à la 87e minute.
Ah, les Parisiens n'ont pas encore dit au revoir, évidemment. J-2 avant le match de l'année pour le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour de la Ligue des Champions après avoir marché sur Liverpool au Parc des Princes, mais perdu. Les Parisiens veulent marcher sur Anfield, mais cette fois gagner, évidemment. Paris y croit, dur comme fer après la prestation éclatante du match aller. Juste au coup de sifflet final, Vitinha est au micro du diffuseur et il dit ça.
C'est maintenant qu'on va montrer le type d'équipe qu'on est. Maintenant, c'est à nous de montrer notre personnalité, notre force. Ça, c'est une vraie équipe, même quand on tombe. et on va là-bas, on va faire un grand match. Cette fois, on va marquer et on va passer, je suis sûr.
Cette fois, on va marquer et on va passer, je suis sûr. Notre débat, est-ce que vous êtes aussi optimiste que les Parisiens ? Sachez-le, d'emblée, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai bon débat caché, un vrai bon bras de fer. C'est très serré sur le compte X des grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Philippe Saint-André. Et c'est tout. Il est oui. Tout seul.
C'est bien.
Dans le coin droit, la team non.
C'est pas un problème.
Pascal Duprat, Cédric Emmons et Simon Dutin. Je le disais, c'est extrêmement serré. C'est du 54-46 pour l'instant. 54 pour le non. 46 avec toi, Philippe. Oui. Je suis aussi optimiste que les Parisiens. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit le Paris Saint-Germain, c'est Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut GG, bienvenue. Salut, Cédric. Arthur.
C'est vrai, je le disais, Arthur, dès le coup de sifflet final, mercredi soir, bah, les Parisiens étaient déjà tournés vers Anfield.
Oui, et avant d'affronter Rennes, Luis Enrique disait ne pas penser au huitième de finale retour contre Liverpool. Après le large succès hier en Bretagne, l'entraîneur parisien avoue sa supercherie.
Je vous ai menti. Bien sûr que je pense à Liverpool, et ce depuis le tirage au sort, mais c'est un plaisir d'entraîner mon équipe. Je tiens à souligner le travail qu'a fait tout le groupe et la mentalité de toute l'équipe.
Avant le choc de mardi, le club de la capitale fait le plein de confiance, invaincu en championnat. Un nouveau doublé d'Ousmane Dembélé hier à Rennes et toujours aucun blessé. Le coach espagnol reste optimiste.
Nous sommes une équipe plus dangereuse. Le football, c'est de la magie, c'est imprévisible. Ce n'est pas toujours l'équipe qui a le meilleur budget qui gagne. Après la défaite, on était triste, mais on a repris nos esprits. Rennes a bien joué, on a fait un bon match. C'était un match difficile, mais on a joué sereinement.
Mais Paris doit remonter un but de retard et Liverpool n'a jamais perdu à domicile en Ligue des Champions cette saison. Pas de quoi décourager le défenseur Lucas Hernandez.
C'était important de continuer à enchaîner des victoires, des belles prestations avant ce match très important comme celui de Liverpool mardi. Tout le monde se sent bien, l'équipe fonctionne à la perfection. On est tous très motivés de ce match de mardi en espérant de tout faire pour nous qualifier. Et c'est un objectif et c'est vrai que ça va pas être facile là-bas. C'est jamais facile de jouer en fil. On a des super joueurs, on a un super groupe, on est dans une dynamique très bonne.
Liverpool arrive aussi déterminé après s'être imposé 3-1 contre Southampton hier avec un doublé de son attaquant star Mohamed Salah.
Ouais, un doublé de Salah mais une boulette de notre ami Alisson Becker. Il aurait pu quand même en faire au moins une au Parc des Princes. Bref, êtes-vous aussi optimiste que les Parisiens ? C'est notre question, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Arthur, tu restes avec nous pour ce débat. Philippe Saint-André, tu es tout seul dans ton coin mais tu as 46% avec toi. Tu as un peu de retard à faire pour essayer d'inverser la tendance. Pourquoi oui ? Pourquoi tu es aussi optimiste que les Parisiens?
Mais parce que déjà, j'aime bien l'état d'esprit qui se dégage de cette équipe. Ils jouent Liverpool, qui est un monstre, qui est sûrement la meilleure équipe européenne. Le contenu à Paris a été exceptionnel, même s'ils ont perdu. Moi, sincèrement, quand tu es manager ou entraîneur, j'ai adoré ce que dit Vitinha après le match. Voilà, on a perdu, mais on va aller faire un résultat et on va aller gagner là-bas. Alors, bien sûr que ça va être compliqué. Je suis pas un expert comme Pascal, mais je pense que à Liverpool va avoir un peu plus la possession. Et ça sera peut-être sûrement mieux pour le PSG parce qu'ils auront peut-être plus d'espace. Et je pense qu'avec le contenu qu'ils ont fait, s'ils sont capables de refaire un match aussi solide, pourquoi pas? Et puis il faut espérer. Mais moi j'adore. Je trouve que le PSG, ils changent, ils prennent de la maturité. Et j'adore l'état d'esprit de ces joueurs qui pensent qu'ils sont capables de faire quelque chose à Liverpool. Et ça, pour cela, je veux cautionner. Je veux cautionner leur optimisme.
Ok, tu t'appuies sur l'état d'esprit, Cédric, et pour te rentrer plein fer.
C'est exactement, l'état d'esprit, oui, bien sûr, ils ont envie de gagner, heureusement d'ailleurs qu'ils ont envie de gagner, mais si on parle, Philippe, du contenu, ils ont gardé le ballon, ils ont fait tourner le ballon, ils ne mettent pas un but. Et quand tu vas en file, ils ont déjà un but de retard.
Mais ils auront moins le ballon, ouais. Donc ils vont peut-être en mettre.
Non, mais déjà quand t'as le ballon et que tu te crées des occasions, t'es pas capable de les mettre. Comment tu veux en file, être sous pression, jouer? Alors tu pars en jouant uniquement en contre. Ben pourquoi pas?
Mais c'est pas l'esprit du PSG.
C'est pas l'esprit du PSG. Ben ouais, voilà.
Donc ça va être compliqué malgré tout.
Ben vas-y Pascal.
Attends, mais en fait, moi je voudrais simplement dire une chose. Il y a ce qu'on a dit et souligné à juste titre du match aller, c'est que Paris Saint-Germain avait fait un super match. Moi, ce que je vais dire, c'est un peu édulcoré ce qui s'est dit. le PSG a manqué d'efficacité. Et il y avait beau avoir Alisson dans les buts, il y sera encore, il y a toujours un gardien. Il a fait certes des arrêts, mais il y a des situations où les Parisiens ont dû marquer. Et c'est pour ça que ça. Attention, il y aura match au match retour. Personne ne peut dire qui va l'emporter. Mais néanmoins, j'ai l'impression que les Parisiens ont laissé passer leur chance. Parce que si vous comptez sur Liverpool pour être aussi, inoffensifs qu'ils l'ont été au Parc, alors on se trompe. Parce que à Anfield, c'est une autre paire de manches. Et filer le ballon à Salah, qui a été transparent au Parc, faire en sorte que Liverpool ait de l'espace, parce qu'ils vont très vite aussi à la transition, c'est se tromper. Donc, le problème, c'est que je pense que le match aller dominé par le Paris Saint-Germain, malheureusement, je pense que ça laissera des traces. Dernière chose, j'aimerais bien que Dembélé retrouve ses standards qu'on ne lui connaissait pas. Parce que au match aller, Dembélé, il est retombé dans ses travers devant le but. Donc il a manqué des situations, il a frappé souvent hors cadre.
Il y a deux buts quand même, Pascal.
Oui. Mais au match aller, il est retombé dans les travers qu'on lui connaissait. Ouais, parce que, voilà, par il n'a pas Pascal, été efficace.
Pascal, oui. Toi qui es un entraîneur, quand tu as quand même des mecs et tes leaders d'équipe qui, à la fin du match, même si tu perds, sont positifs.
Ils ne sont pas dans la déception.
Ils sont pas dans la déception. Tu es d'accord avec moi ça sent bon quand même.
Ça sent bon. Oui, voilà. C'est bon.
Alors après, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner Liverpool, ça c'est
oui,
sûr.
Mais l'état d'esprit au Paris Saint-Germain, franchement, chaque fois, je défends le PSG, y compris quand certains disaient qu'ils n'allaient pas passer la phase de poule en Ligue des Champions. Chaque fois, j'ai dit attention, le Paris Saint-Germain, ils jouent tout sauf mal. Ils jouent en équipe et ça, c'est nouveau. Donc, on doit reconnaître que à la fois l'état d'esprit et à la fois les attitudes sur le terrain du Paris Saint-Germain cette saison sont remarquables. À tel point que si jamais ils venaient à passer contre Liverpool, attention pour que ce ne soit pas les favoris.
Ok, non, mais
la Ligue des Champions.
Mais ce qu'il dit est très intéressant, c'est-à-dire que pour lui, il sent Paris a laissé passer sa chance. Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas un peu aveuglé par le match aller, Simon Dutin?
Optimiste, je suis pas optimiste. J'espère évidemment, comme tout le monde, qu'ils vont réaliser un exploit. Mais j'ai peur que l'histoire, on l'ait déjà vu trop souvent. Voilà, ils ont broyé Liverpool. Liverpool a survécu au crash test. Liverpool était en perdition. Ce que Paris a fait face à Liverpool pendant 89 minutes, c'est d'une brutalité absolument obscène, quoi. Vraiment, c'est ils ont ridiculisé ce qui était jusque-là la meilleure équipe d'Europe. Après, encore une fois, j'ai peur que Paris ait laissé passer sa chance, trop d'occasions manquées. À Liverpool, ils ont perdu une fois à la maison en championnat, c'était en septembre dernier. Ils ont perdu une fois en phase régulière de Champions League.
Et sur un match qui comptait pour du beurre.
La façon dont Paris a annihilé les transitions de Liverpool au Parc, je suis pas sûr que tu sois capable avec le cop qui va te faire prendre la douche. Du quart d'heure
sur les... question, c'est
que jusqu'à la fin, je pense pas que Paris va pouvoir rééditer la même prestation défensive. On a obligé Nuno Mendes à rendre le Mohamed Salah qu'il avait dans la poche de son short là, tu sais, après le match aller. Donc je pense que
Liverpool ne rattrape pas deux fois son match.
Je pense que à la maison, avec le sentiment quand même, ils sont un peu passés pour des pimpins et ils ont un sentiment de revanche, et je pense qu'ils sont évidemment vexés. Donc j'ai peur que avec la
séries sont faites pour s'arrêter. Donc voilà.
Tu as raison.
Comme le dit Pascal, si Paris les sort mardi soir, je pense que c'est autoroute attention. Parce que derrière tu prends
Bruges ou Aston Villa
c'est jouable.
Attention, l'année dernière on avait dit ça aussi. Il y avait Dortmund en demi-finale.
Mais ce serait en tout cas un exploit majuscule, mais j'ai peur que l'histoire on l'ait déjà vu trop souvent.
Pour situer l'exploit que ça serait, sur les 19 derniers matchs disputés à domicile à Anfield, Liverpool a toujours marqué deux buts. Donc, toute compétition confondue, sur les 19 derniers matchs. Donc, cette équipe, elle a une capacité offensive hors norme. Et malheureusement, Paris a un but de retard. Et il va falloir gagner par deux buts d'écart.
Philippe, est-ce que t'es pas aveuglé par le match aller?
Non, mais moi j'ai du mal. C'est qu'ils sont pas optimistes. Par contre, ils disent que si le PSG gagne à Liverpool, et après ils vont
gagner. Non, mais c'est pas ça. C'est que t'as muselé Liverpool à la maison, qui a fait peut-être son plus mauvais match, et t'as pas été capable de marquer. Et aujourd'hui, tu vas à Anfield, Liverpool frappe pas deux fois la même erreur. Ils vont te priver de ballon, et toi tu vas courir après. Et comme on l'a dit, il faut marquer les buts.
Je sais pas s'ils vont les priver de ballon, Cédric, mais Avec le PSG, ils ont des mecs rapides.
Avec le COP, avec Anfield, le décorum, l'habitude que ces mecs ont d'évoluer à ces altitudes-là. Et encore une fois, le vécu qu'ils ont cette saison et le sentiment de revanche à prendre après ce qu'ils ont pris dans la presse toute la semaine. J'ai peur que ça se soit compliqué.
Ça, c'est intéressant. Pareil. Vous avez certainement pris dans votre carrière tous un petit peu, à un moment donné, la branle, la branlée. Ou en tout cas, vous êtes fait marcher dessus. Est-ce que vous avez ce logiciel-là? C'est-à-dire que Liverpool, vous êtes dans la tête d'un raid, là, et vous dites,
mais c'est mission commando.
Paris, c'est pas possible. Quand on s'est fait humilier, c'est pas deux fois, quoi.
Oui, après, ils se font, on parle bien de Liverpool, humilié, mais ils mènent, ils gagnent 1-0. Donc, à la rigueur, quand tu regardes le match, tu dis, on est passé pas loin de la catastrophe, mais on a réussi à gagner ce match. C'est plutôt l'état d'esprit des Parisiens qu'il faut regarder. Est-ce que eux seront en opération commando? Et là, il y a plein de leviers.
Cyril nous appelle.
Quelle équipe se sent renforcée après ce match aller? Liverpool ou le Paris Saint-Germain?
Bah, Liverpool
en étant catastrophique, ils gagnent 1-0. Donc ils sont renforcés et ils sont vigilants. Donc des ingrédients pour que la tâche du Paris Saint-Germain soit délicate.
Ok, bon, vous m'avez un peu broyé le moral, c'est pas grave. Cyril nous appelle au 32-16.
Le PSG va être en mission.
On va voir si Cyril est optimiste ou pas. Cyril, salut, supporter du PSG.
Allô, bonjour toute l'équipe, ça fait plaisir de vous avoir. Il y a deux, trois petites choses qui me gênent dans votre façon d'aborder le match. Vous dites que c'est Liverpool qui est renforcé par rapport à leur victoire. Non, je pense que Liverpool, quand ils sont venus au PSG, ils les ont pris de haut. Maintenant, ils savent à qui ils ont affaire. Mais ça ne veut pas dire que Paris... Non, mais justement, ça ne veut pas dire que Paris n'a pas son niveau. Paris a joué toutes les équipes de la même façon. Rien ne dit que Liverpool ne gagnera pas. Ça, j'en mettrais pas ma main coupée. Mais de là à dire que Liverpool est favori parce qu'il joue à Anfield, excusez-moi, Anfield, c'est une plaisanterie. Partout, dans tous les stades de France, d'Europe, dès que les supporters se déplacent, ils éteignent tout. À Dortmund, on disait le mur jaune. Excusez-moi, on a vu le match ou quoi? Les supporters se sont tus, même s'ils ont gagné. Les supporters parisiens vont mettre le feu. Ça ne fera pas que l'équipe jouera mieux ou jouera moins bien, peu importe. Mais on ne peut pas partir sur le principe que c'est le fait que ça soit Anfield qui va désavantager Paris. Maintenant, Liverpool s'est fait surprendre. Vous dites que Mossala a été transparent. Non, Pacho a rendu
Mendes.
Ouais. L'erreur qu'ils commettent, c'est une erreur de jeunesse. C'est-à-dire qu'ils avaient identifié comme Salah le...
Peut-être,
le
mais on a
principal.
Vu le film 50 fois. Celui-ci, on l'a vu 50 fois avec les équipes françaises. C'est ça, en fait, qui...
Ouais, bah, l'année dernière, rappelez-vous de Barcelone, alors.
Oui,
on a vu 50 fois.
Ça, t'as raison. Sauf que Barcelone avait moins de certitudes l'année dernière, par exemple.
Oui, mais Barcelone était quand même une équipe énorme l'année dernière.
Bien sûr,
donc,
mais...
On peut pas partir sur des statistiques pour en faire des probabilités. D'accord. On peut dire effectivement dans le passé il s'est passé ça, mais ça ne fait rien sur l'avenir.
Les probabilités, c'est quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur en Champions League,
des statistiques. Le passé, on ne prévient pas l'avenir avec la seule comparaison sans rentrer dans les maths, le seul point commun entre les statistiques et les probabilités, c'est le dénombrement. D'accord?
Oula, attends, c'est le grande gueule du sport ici, dis donc. Hein, on est sur RMC, donc, on parle de sport.
Non, d'accord, désolé.
Hein, les mots compliqués. Je suis avec des rugbyman, là.
Merci, JC. Je cherche le dictionnaire. Je suis sur le téléphone depuis une demi-heure, moi.
Vas-y, Cyril, termine, pardon.
Que Liverpool soit favori, oui, c'est logique, parce qu'il mène d'un but. Et il joue à domicile. Maintenant, on ne peut pas prédire de l'avenir. Là-dessus, la dernière fois, on disait que Paris allait se faire marcher dessus par Liverpool et que la Ligue 1, c'était la Farmer League et que le champion de Ligue 1 ne valait rien par rapport au champion d'Angleterre. Désolé.
C'est pas sur cette antenne que tu l'as entendu.
Oui, ou en tout cas pas dans cette émission.
Mais c'est pas que vous, je sais.
Il y a combien?
Monsieur Duprat, c'est pas vous qui l'avez dit. Je le sais très bien que c'est pas vous qui l'avez dit. Mais il y a quand même de nombreux intervenants, des nombreux journalistes sportifs qui ont défoncé Paris avant même le match. Donc pour moi, Paris n'est pas favori, mais il n'a pas à baisser la tête.
Très bien.
Je suis persuadé qu'ils gagneront là-bas.
Bien. Voilà quelqu'un qui est avec moi.
Merci Cyril d'avoir été avec nous au 32-16.
Bravo Cyril.
Alors sachez que c'est une semaine exceptionnelle que l'on vous propose sur RMC. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous appelez votre patron, vous dites que ça va pas très bien cette semaine, vous restez à la maison tranquille et vous écoutez toute la journée RMC. Alors,
comme quoi le jeudi matin.
Oui, voilà, vous commencez votre semaine un peu plus tard. Bon, vous arrangez, bref. Dès demain, à 15h, le Super Moscato Show va lancer une semaine spéciale tournoi destination pour ce match décisif France-Écosse, évidemment. Match à suivre dès 20h au Stade de France le samedi 15 mars avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, bref, la Dream Team, suivi d'un after spécial tournoi destination jusqu'à minuit. Ça, c'est samedi soir prochain. Et donc, le Moscato Show, tous les jours à 15h, va lancer cette semaine magnifique. Huitième de finale, retour évidemment de la Ligue des Champions, c'est mardi, 18h, 1h30 du matin. Spécial Liverpool-PSG. Mercredi, Rotten sans flamme en direct de Lille pour la rencontre Lille-Dortmund. Le coup d'envoi, c'est à 18h45 et il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30. Le jeudi, il y a la Ligue Europa avec le huitième de finale de Lyon contre Bucarest à 21h. Et puis dimanche soir, journée spéciale avec le classique Paris Saint-Germain-Marseille à 20h45. L'after sera au Parc des Princes et la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Bref, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas là cette semaine. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut absolument écouter RMC parce que ça va être grandiose. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va prendre des nouvelles d'Antoine Dupont, évidemment, et puis on va se demander si les Irlandais ont pas fait un peu exprès. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Cédric Emence, Pascal Duprat, Philippe Saint-André, Simon Dutin à partir de 11h. On parle de Fabien Galthié qui a été critiqué durant ce tournoi destination. Est-ce qu'il a fait taire toutes les critiques justement après cette victoire magnifique en Irlande? On en parle donc à 11h et vous allez voir, les GG ne sont pas d'accord. Mais tout de suite Antoine Dupont. C'est un énorme coup dur pour le 15 de France, pour le Stade Toulousain et pour lui, évidemment. La grave blessure au genou droit d'Antoine Dupont est venue assombrir l'immense victoire du 15 de France en Irlande. On joue alors la 29e minute dans un ruck. Le capitaine des Bleus est victime d'un déblayage musclé, on peut dire ça comme ça, de Tag Bern. Son genou est pris au piège. Les conséquences risquent d'être immenses pour la star du 15 de France. Notre envoyé spécial à Dublin, Pierre Thévenet, est avec nous. Salut Pierre.
Salut JC, bonjour la grande gueule.
Salut Pierre.
Et les Bleus sont évidemment tristes, mais aussi en colère.
Oui, atmosphère pesante. Après le match, Fabien Galthié est arrivé en conférence de presse avec l'œil noir, le visage fermé, et a tout de suite évoqué la blessure d'Antoine Dupont.
Il y a suspicion d'une blessure assez grave au genou. Antoine souffre, il faut dire les choses comme elles sont. Sur cette question-là, on est en colère.
Mais alors pourquoi cette colère? Le sélectionneur est énervé par ce geste du deuxième ligne Tad Bern qui, sur un déblayage appuyé à la limite de la règle, est tombé sur l'articulation de Dupont et l'a blessé, mais aussi par le plaquage haut de Calvin Nash sur Pierre-Louis Barassi.
On a cité des joueurs à comparaître devant la commission. Aujourd'hui, on veut protéger nos joueurs. Il y a des moyens qui sont mis en place, il y a des règles. Donc on veut que la commission étudie les gestes qui sont répréhensibles ou pas. Il y a des images. Donc on a cité. Nous, les joueurs ne rentrent pas. De l'autre côté, les joueurs rentrent, donc on veut comprendre pourquoi.
La blessure d'Antoine Dupont a occupé la majorité des sujets de discussion de la conférence de presse. À côté de Fabien Galthié, Greg Aldrit semblait très touché, il avait les larmes aux yeux.
Quand je rentre et que je vois un de mes meilleurs potes dans le vestiaire comme ça, voilà, ça prend aux tripes. Et même là, voilà, je suis encore, c'est compliqué d'en parler. Mais, donc voilà, ça a aussi été un petit peu d'essence pour la deuxième mi-temps.
Une blessure utilisée comme un carburant donc par cette équipe de France, comme le confirme Louis Bielle-Biarret, qui a lui aussi eu une pensée pour Antoine Dupont.
Greg a insisté à la mi-temps sur le fait qu'Antoine était au plus bas mentalement à 5 mètres de nous. Donc c'était quelque chose, ce match, cette deuxième mi-temps qu'on pouvait faire pour lui et que c'était important pour nous, pour notre histoire, pour notre équipe. C'est vrai que si on va chercher ce tournoi, ce sera en partie pour lui parce que bon, ça aura quand même été un acteur majeur. Je pense que tout le monde a envie de gagner ce match pour l'équipe et pour lui.
Le capitaine des Bleus doit désormais passer des examens pour confirmer ou non qu'il souffre d'une blessure grave au genou. Face à l'Écosse, samedi prochain, capitaine Toto ne sera pas sur le terrain, mais dans toutes les têtes des Bleus.
Merci beaucoup Pierre Thévenet pour toutes ces précisions. Vous l'avez entendu, hein, forcément le 15 de France triste, mais aussi en colère à l'image de Fabien Galthié. Alors notre débat concernant la blessure d'Antoine Dupont. Les Bleus ont-ils raison d'être en colère? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Cédric Emence.
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Philippe Saint-André.
Non.
C'est plutôt non aussi. Avant de vous écouter, je voudrais vous faire écouter une pièce à conviction. C'est l'échange entre Greg Aldrit et l'arbitre de cette rencontre hier, Angus Gartner. Alors c'est en VO, je vous traduis après, mais c'est juste après la blessure d'Antoine Dupont, les deux hommes discutent ensemble.
Gregory, mate, I genuinely hear your concerns, and you've got to trust us that we reviewed it, and mate, sometimes in rugby, as unfortunate it is, mate, people get injured, and so I completely understand. Yeah, I know.
This is a point of
it. Yeah, mate, for the game, everyone is, 100%, so...
Il faut que tu nous fasses confiance, Grégory. On a regardé les images. C'est malheureux. Parfois, dans le rugby, les joueurs se blessent. On comprend complètement et je comprends ce que tu me dis, mais on est sûr à 100%. Voilà ce que dit l'arbitre. Les Bleus ont-ils raison d'être en colère? C'est oui pour Cédric Emmons. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Parce que devant ma télé, je pensais que c'était une blessure involontaire. Et plus je vois les images, plus je vois cet Irlandais venir se coucher sur le genou d'Antoine Dupont. Et quand c'est, en tout cas, c'est la certitude du staff du 15 de France. Et on a tellement peu cité, on a tellement laissé tout passer qu'aujourd'hui, il faut pas le laisser passer. On a le meilleur joueur du monde. Il faut qu'il soit protégé. Comme Barassi doit être protégé, comme tous les joueurs de toutes les nations doivent être protégés. Et là, plus je vois les images, plus je sens que...
Il y a un doute. Il y a un vrai doute
pour toi. Non, mais honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Sur cette blessure, sur cette position-là, sur une zone de ruck, quand vous voulez aller coincer un genou, c'est faisable. C'est pour ça qu'on a mis toutes ces règles pour protéger les joueurs. La semaine dernière, dans le top 14, il y a deux joueurs sur des déblayages, compris des cartons rouges, pour des déblayages, on va dire, irréguliers. Là, c'est pas un déblayage irrégulier, mais j'ai peut-être la conviction que l'Irlandais, il sait très bien sur quoi il s'appuie et qu'il va s'enrouler.
Cédric. Moi, je suis pas un spécialiste de rugby. Je suis juste un amateur fou du rugby. Moi, j'ai l'impression que c'est Porter qui
exactement
fait basculer voilà son coéquipier et qui prend le genou en porte-à-faux ouais de Dupont. Ouais, voilà ce qu'on voit après de multiples ralentis.
Ouais, toi, voilà. Je suis d'accord avec toi, Pascal. C'est pour ça, moi, Cédric, que l'entraîneur soit énervé, que Aldrit il fait son job hein, quand il pose la question à l'arbitre. Sincèrement, on charge l'arbitre, mais c'est plutôt l'arbitre vidéo qui regarde les images et qui prend la décision. Mais quand tu regardes les images vraiment, Byrne, il vient pour nettoyer. Alors peut-être que son geste est pas très bon, mais c'est surtout qu'il est déséquilibré par son pilier gauche qui l'impacte derrière. Philippe, il appuie, il reste dans la zone, il appuie, il sait très bien.
Non, il est impacté par le pilier.
Ouais, et c'est subit, pour,
tu l'as vécu ces situations où t'as un genou en porte-à-faux et tu sais que tu peux aller taper dessus.
Cédric, il peut prendre carton rouge.
Ben voilà.
Donc, d'accord, il peut prendre carton rouge.
Il doit
prendre carton rouge, mais il le fait pas.
De là à dire que c'est intentionnel.
Ce n'est pas intentionnel. Par contre, avec la règle maintenant, il doit prendre carton rouge. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais c'est l'impact du pilier sur lui qui le fait vriller.
Ah mais c'est vous hein, qui avez joué dans des zones de ruck, hein, donc vous savez mieux que nous. Est-ce que quand vous voyez le genou d'un adversaire, qui plus est, et vous le savez, c'est le GOAT, est-ce que...
Non, pas là, du moins. J'espère qu'un joueur ne peut pas imaginer ou penser à péter un genou, mais
c'est
ça peut arriver. Mais ça peut arriver.
L'entraîneur des Irlandais,
c'est pas bien, mais ça peut arriver.
Vient de dire que c'était un incident de jeu. Alors il est
lui aussi dans son rôle.
Il est dans son rôle, mais l'image est pas si claire que ça. C'est ça le problème.
Okay.
L'image n'est pas.
C'est aussi pour ça que
Jean-Christophe, on visait par rapport à ta question, des commotions cérébrales et on allait bien le chercher. Donc
pendant des années, vous avez visé Sexton, c'est ça.
Jean-Christophe
dans cette zone-là, en tous les cas.
Oui, bien sûr.
Il a fait quelques chaos.
Pascal avant Simon, oui Pascal.
Ouais, par rapport à ta question, mis à part Fabien Galthié, il y a pas beaucoup de joueurs qui clairement disent que Dupont était blessé ou mis en danger. Il y a que Galthié qui parle parce que les autres joueurs nous parlent de l'émotion de voir leur capitaine blessé à la mi-temps, mais ils nous le disent pas clairement. Que les Irlandais ont voulu blesser intentionnellement.
Non, mais je t'as raison, Pascal.
L'intégrité physique était.
Mais je suis persuadé que tous les menacés.
C'est pas le joueur, c'est au staff à faire ce boulot-là.
Non, mais par contre, les joueurs l'ont vu en pleurs dans les vestiaires, donc ça les a.
C'est ça.
Non mais Simon, bravo Pascal, tu vois, on avait commencé l'émission avec un petit peu de tension finalement.
Mais pas
tu
du
vois.
Tout,
l'amour,
Simon.
L'amour l'emporte toujours.
Mais bien sûr.
Je suis absolument d'accord avec toi parce que voilà, Galtier y est allé. Personne, si ça avait été flagrant, je pense que tout le monde aurait exprimé de la colère et ce serait un petit peu emporté. Alors même si c'est pas évidemment dans les codes, les valeurs du rugby. Moi, ça dépasse évidemment mes compétences, mon œil. Évidemment, j'ai l'impression, comme dit Philippe, que c'est dans le feu de l'action et que c'est parce que justement ils voient Dupont, ils connaissent le danger et qu'il y a l'adrénaline. C'était quand même du hachoir à viande industriel. Ça va tellement vite que je pense que t'as pas le temps.
Mais sinon, si t'as la possibilité de le genou, le meilleur joueur du monde avec l'influence qu'il a sur son équipe, est-ce que tu le fais?
Mais justement, c'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai tendance à croire que dans le rugby, qui que ce soit en face de toi,
pas les valeurs.
Mais je veux dire que même dans le sport de très haut niveau, bon, c'est quand même de plus en plus rare et heureusement qu'on se dise, je vais le fracasser, tu vois.
Je dis pas qu'il veut le blesser. En tous les cas, la gravité de la blessure, mais en tous les cas, ils veulent le coincer.
Et j'ai l'impression que, malheureusement, ça se termine par une grave blessure a priori pour Dupont, mais j'ai trouvé Easterby, là, le sélectionneur intérimaire, assez digne en conférence de presse parce que, et là, je me tourne vers vous, il y a un déblayage un petit peu douteux sur Omahouni qui conduit un essai. Lorsqu'on l'a interrogé là-dessus, lui, il parle de fait de jeu pour Dupont. Il dit aussi, on joue un peu avec la règle, on est à 2-3 mètres du ruck, tout le monde essaye de faire ça. J'ai trouvé les Irlandais assez dignes là-dedans. Ils n'ont pas monté au créneau en disant on n'a rien fait. Bon, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Malheureusement, ça se termine mal pour Dupont. J'ai tendance à croire qu'il y a rien.
Heureusement que l'entraîneur irlandais se plaint pas des déblayages à 4 mètres des rucks. Ils ont fait ça pendant des années et des années. Donc là, je trouve que ça a été plutôt bien arbitré surtout.
Vous savez quoi, les copains? Il y a Sébastien qui nous appelle au 32-16 et lui, il est furax. On va l'écouter. Salut Sébastien.
Ouais, salut. Alors moi, ça me rend dingo, ça me rend hystérique. Il y a trois règles. La première, c'est déjà qu'il faut rentrer par la porte du ruck. Donc le mec, il arrive par le côté. La deuxième, c'est qu'il faut plaquer avec les bras ou même déblayer, on n'y a pas l'épaule. Et la troisième, c'est qu'il faut rester sur ses appuis, il faut rester debout. Donc les trois règles, elles sont enfreintes. Après, qu'il soit volontaire, qu'il n'ait pas visé spécialement le genou de Dupont, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, il y a trois règles qui ne sont pas respectées. Et à un moment donné, World Rugby, là, nous casse la tête avec des règles pas possibles pour la sécurité des joueurs. Et la moindre des choses, ça fait 10 ans que c'est la foire d'empoigne sur les rucks. Donc non. Quand il y a faute, qu'elle soit volontaire ou pas, il y a faute, point. Et au minimum, le TMO, il doit sanctionner. Il doit mettre au minimum un jaune et après, éventuellement, un rouge.
C'est l'erreur du TMO. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'erreur du TMO qui doit lui mettre au moins carton jaune.
La faute, elle y est. Elle est indéniable, la faute.
La faute, elle y est, mais elle est impactée par le pilier gauche qui le déséquilibre. Mais la faute, elle y est. Et c'est pas la faute de l'arbitre, parce que l'arbitre demande au TMO et c'est le job du TMO de lui signaler.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pas un problème d'arbitre, de cet arbitre-là. C'est le problème de l'arbitrage en général, où ça fait des années que sur les rucks, il se passe tout et n'importe quoi. Tu vous en parliez juste avant, là, les mecs qui déblayent à 3 mètres du regroupement, les mecs qui plongent, les mecs qui perdent les appuis. Donc forcément, quand tu vas jouer le ballon, bon, il se trouve que là, c'était Dupont, et malheureusement pour lui, malheureusement pour nous, mais ça aurait été un autre joueur, ça aurait été pareil.
Après, sur les zones de rucks, ça a été clarifié, du moins, c'est beaucoup plus simple et réglementé qu'à une certaine époque.
Tu peux plus prendre les mecs à la tête.
C'est plus la piscine municipale.
Mais après, par contre, pendant
plus de fourchettes,
les mecs ont bon appétit encore.
Il y a une intensité dans les rucks des deux côtés. Hein. Tu revois le match, ça piquait vraiment. Et des deux côtés.
Alors moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette blessure et en tout cas sur les conséquences de la blessure. Votre œil d'expert là, vous êtes pas médecin, mais vous êtes déjà fait des ligaments. Je crois que c'est ton cas, oui. Cédric. Déjà, si c'est ça, c'est combien de temps d'arrêt minimum comment tu analyses la situation?
Le top niveau, c'est un an. C'est un an pour qu'il redevienne le meilleur joueur du monde. Alors oui, il pourra jouer
entre 6 et 8 mois sur le terrain.
Exactement. Mais après, il y a la confiance, il y a les appuis, il y a beaucoup de choses qui va se passer pour Antoine Dupont. Comment il va réagir, même si maintenant, en termes de, je suis pas chirurgien, mais les joueurs récupèrent plutôt assez vite.
Mais tu es en train de me dire que pour retrouver Antoine Dupont en forme, c'est le prochain tournoi destination.
Il y a la tête surtout à soigner, parce que cette blessure-là, est-ce qu'il va la revivre, est-ce qu'il va la vouloir la regarder, l'évacuer, parce que quand t'es dans une zone de ruck ou sur un appui, moi ça a été mon cas, hein, quand je me suis cassé le ligament croisé, c'est sur un appui. Ben pendant quelques temps, j'avais du mal à aller chercher cet angle-là. Est-ce que Antoine Dupont va vouloir s'appuyer aussi fort dans les rucks qu'il le faisait?
Il a déjà eu cette blessure.
Oui, puisque c'est un genou abîmé depuis 2022, je crois.
Il a déjà eu les croisés sur ce.
Oui, il a déjà eu les croisés.
Ouais. Bon. Donc c'est pour ça que je dis un an entre la réathlétisation et la tête à soigner.
Ouais, ça ferait deux fois hein, qu'il se fait le même genou, Antoine Dupont. Évidemment, tout au long de la journée, des informations sur rmcsport.fr pour vous donner la gravité de la blessure d'Antoine Dupont. Mais tout le monde a peur pour le génie français. Évidemment, en tout cas, on vous donnera, dès qu'il y a une information sur cette antenne, on vous donnera l'information, Antoine Dupont. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir pu exprimer comme ça ta colère après cette blessure de notre capitaine. 10h47, on se retrouve dans quelques instants. Les GG contre-attaque. C'est la première fois que Cédric est... Il participe, évidemment, c'est sa première. Donc,
bah ouais.
Statistiquement, bon, est-ce qu'il va gagner avec son Pogacar? Alors, on ne l'attendait pas là-dessus. On va voir la réponse dans quelques instants. A tout de suite sur RMC, puis on reparlera d'Irlande-France avec Fabien Galthié. Est-ce qu'il a fait taire toutes les critiques? C'est à 11h.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec ce matin Simon Dutin, Cédric Aymance, Pascal Duprat, Philippe Saint-André. À partir de 11h, on ouvre le procès ou non de Fabien Galthié qui a évidemment réussi tous ses choix hier. Est-ce qu'il a fait taire toutes les critiques? Ce sera notre débat et les GG ne sont pas du tout d'accord. Et puis 11h30, vous le savez, le dimanche, les GG remontent le temps, on prend une date anniversaire et là, paf, 8 mars 2017, la remontada. Vous allez me dire comment vous avez vécu ça, est-ce que vous avez réussi à extérioriser. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les GG. Ah, juste avant, pardonnez-moi, il y a du ski avec le Super G, Lena Marjac, en Norvège. Salut Lena.
Salut JC. Mais t'as failli m'oublier, mais bon, pour l'instant, les résultats des Français ne sont pas au top, comme depuis le début du week-end. On a 9 Français au départ de ce 7e et avant-dernier Super G de la saison. On est à Kvitfjell, en Norvège. Un seul Français pour l'instant est passé, c'est Nils Allègre. Et donc, pas de podium, pas de victoire non plus, du coup, pour le tricolore qui se trouve 7e provisoire à 6 dixièmes de l'Italien Dominique Paris, qui a pris les commandes de ce Super G et les conditions ne sont pas top parce qu'il y a des nuages, il y a du brouillard, donc on a abaissé le départ et donc on aura encore 8 Français au départ. Le prochain, c'est Florian Loriot avec son dossard 29.
RMC, les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin à la dernière place. Pascal Duprat, Lamine Yamal, 8%. Lamine Yamal critiqué. Bravo mon cher Pascal, on se retrouvera bientôt.
Merci.
Bon, c'est comme ça, hein, ça marche pas tout le temps. Hein. Novak Djokovic, est-ce la fin, lui qui a perdu son premier match à Indian Wells?
J'y croyais pas des masses.
26% tout de même,
ouais,
c'est pas mal.
On s'est bien battu.
Alors là, c'est une première dans l'histoire des grandes gueules du sport, dans les GG contre-attaque. Il y a 33,3 et 33,2. On vient de clore les votes, ok? 33,2 pour attention à l'Écosse de notre ami Philippe Saint-André. De toute façon,
on laisse le rookie
opérer. Ouais. 33,3 pour Tadej Pogacar. Il est trop fort. Est-ce qu'il va gagner toute la saison? On t'écoute, mon cher Cédric.
C'est surtout la démonstration qu'il a faite hier après s'être échappé avec Pidcock, qui prend un virage un peu trop à la corde et il glisse, il fait une chute assez lourde. Et ce que j'ai aimé, c'est pas de panique, le grand champion dans toute sa splendeur. Il remonte sur son vélo. Il reprend, il refait quelques kilomètres. Il panique pas, à l'instar de rappelez-vous de Froome dans le Ventoux qui avait couru en ayant perdu son vélo. Et là, il remonte, il change de vélo, il revient sur Pidcock et il gagne la course. Alors on sait que c'est un grand champion. Est-ce que c'est le plus grand champion de tous les temps? En tous les cas, je sais pas. On le voit dans le cyclo-cross, il domine également. J'ai cru comprendre ou lire qu'il voulait se mettre également au VTT, peut-être au freestyle un jour, on sait pas. Mais en tous les cas, tout ce qui touche au vélo, il est hors norme. Mais je le redis, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il a géré la situation. Parce que pour faire un peu de vélo, même si j'ai une enveloppe corporelle supérieure à la sienne, quand je tombe par terre, peine, c'est abrasif quand même. C'est abrasif.
Tu te relèves pas tout de suite.
Ouais, voilà. Ouais. Cherche un peu de vaseline pour essayer de remonter. Ouais. Et là, lui, panique pas. Il est serein, il est paramétré, il est focus sur quoi? C'est sur revenir. Pas de panique, je reprends un vélo, je change de vélo, je reviens sur Pidcock et je gagne.
Alors à 26 ans, il remporte son troisième succès sur les Strade Bianche. C'était le cas en 2022. En 2024, donc c'est le back-to-back pour le Slovène. La semaine dernière, c'était l'invité exceptionnel de Marion Bartoli dans Bartoli Time. Il vient de gagner un monument et lui, son objectif, c'est de gagner tous les monuments sur une saison. On l'écoute.
Yeah, I think it's a small chance. For sure, it's a small chance. But
ouais, je pense qu'il y a peu de chance. C'est sûr même qu'il y a peu de chance de gagner 5 monuments en une année.
I think one of the most difficult things in to do.
Je pense que c'est l'une des choses les plus dures à faire dans le cyclisme. Parce que gagner ne serait-ce qu'un seul monument, c'est déjà quasi impossible.
But to win all 5 in the same year.
Alors, gagner les 5 la même année, il faut être l'un des coureurs les plus chanceux.
Il faut être chanceux, Simon. Il n'a pas été très chanceux hier. Hein. Il tombe et pourtant, il gagne quand même.
Bah, c'est la marque des grands. Il gagne avec le maillot arc-en-ciel. Bon, il nous fait tout. De toute façon, tu prêches un convaincu. Hein. Cédric, moi, je suis en admiration totale devant ce coureur. Le coureur absolu, parce que ça fait... 30 ans qu'il y a des mecs qui, tu vois, des danseurs étoiles qui dominent en montagne, et puis t'as les gros rouleurs qui dominent. Lui, il gagne partout, il gagne sur tous les terrains. C'est attaquant.
C'est son
insatiable.
État d'esprit, parce qu'il part des fois à 85 km. Ça, il fait des baroudes énormes.
T'as l'impression qu'il calcule pas ses efforts. Alors, hier, il a été justement d'un sang-froid absolument remarquable sur un terrain qu'il connaît bien. Mais quand tu vois les déclarations d'un Pidcock, il t'explique que Pidcock, il est content d'être deuxième et qu'il est limite fier d'être deuxième derrière un
homme comme ça.
Il y a jamais cru. Voilà, et c'est Pidcock, Pascal, t'as raison de le préciser. Il est imbattable, il est extraordinaire, et c'est un mec qui, je pense, amène du monde sur le bord des routes et devant sa télé pour regarder des courses comme ça.
Et ça fait un monument, il a déclaré dans Bartoli Time qu'après Milan-San Remo, il prendrait la décision cette année pour Paris-Roubaix.
Il s'est déjà entraîné, il a déjà fait quelques parcours, il est allé...
S'il commence à tout gagner comme ça, oui.
Ouais, j'y sais, il y a une réclamation. Il y a des auditeurs qui m'envoient des messages. Mika, 46, qui dit « Salut mon filou, ne te fais pas avoir par JC, on est ex-aequo. » Et donc il m'envoie, il y a 33%.
Ben oui, je l'ai dit, il y avait 33%. Ah ouais. Mais sauf que moi j'ai pris la décision.
Tu les trouves où, les 21, les 23, 30, 33,21?
Si tu vas sur ton computer 33,23. Et pas sur ton iPhone, tu as
tous
la décimale.
Tous les auditeurs, voilà, il y a des messages et tout. Ils disent que
tu vois, il a la défaite, qu'il n'arrive pas à l'accepter.
En direct, c'est fou, ça.
C'est pas grave. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis content d'être devant toi pour une fois, tu vois.
Mais par contre, on a cru au fair play.
On pensait que t'étais fair play, mais t'es un mauvais perdant, voilà.
On ira à l'Irlandais, c'est fou, ça.
Ah ouais, non, mais. C'est bien. En plus, tu nous vends une soupe avec Ayant peur de l'Écosse. C'est pas possible.
On aura le temps d'en reparler. Tu seras avec nous le week-end prochain. Voilà. Ok. Bon, évidemment, si vous voulez avoir d'autres informations sur Tadej Pogacar, vous pouvez aller sur rmcsport.fr. Allez, on va reparler rugby parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous intéresse, les copains. Est-ce que Fabien Galthié a fait taire toutes les critiques? Il y a une petite surprise. Je vous cache pas dans le studio RMC parce que je m'attendais pas à ces réponses. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.